Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chaque semaine pour cette exploration des bienfaits de la marche et comment nous pouvons toutes et tous améliorer notre qualité de vie grâce à cette activité simple et accessible. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet de la marche et les aînés. Nous le ferons par le biais d'une conversation avec Hélène Fournel, chargée de projet à Piano-Québec et auteure d'une récente publication intitulée « Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées ». Ce qui fait la force de ce guide est son approche holistique, qui fait en sorte que les initiatives visant le mieux-être des aînés améliorent la qualité de vie de tous, jeunes et moins jeunes. Nous sommes également choyés par la présence en studio de notre chroniqueur Michel O'Neill, alias le Serein Pèlerin, qui nous rend visite pour nous présenter une marcheuse aînée exceptionnelle et une chronique portant sur Compostelle. Donc, une belle émission en perspective encadrée d'une très belle et douce musique proposée par Hélène Fournel. Il s'agit des œuvres d'Alexandra Strelitzky, une pianiste montréalaise présentée par le prestigieux magazine américain Billboard comme l'une des plus éminentes nouvelles stars de la musique néoclassique. On dit par ailleurs que ses mélodies sont une alliance entre profondeur et fragilité, un portrait intime de la condition humaine. La voici dans un premier numéro, tout en douceur, intitulé « Plus tôt ». Bonne émission et à tout de suite. Chers amis, rebonjour. Nous sommes en compagnie, comme je l'ai indiqué dans l'introduction, d'Hélène Fournel, qui est chargée de projet à Piéton-Québec et aussi auteur de cet excellent guide de la série Piéton un jour, Piéton toujours, et qui a pour titre « Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes âgées ». Hélène, bonjour et bienvenue à l'émission.
Bien, merci.
Comme je l'ai indiqué, j'adore votre guide. Et j'imagine que ça a été tout un exploit de réaliser ça pendant la pandémie.
C'est sûr que c'était un grand défi, puisqu'on souhaitait aller à la rencontre des aînés pour les consulter davantage sur l'éventuel contenu du guide. Et puis, évidemment, la pandémie ne nous le permettait pas, du moins de manière de personne à personne. Il a fallu s'y prendre autrement.
Et vous avez bien réussi, et je recommande à tous les auditeurs et auditrices de visiter le site de Piéton-Québec et de consulter ce guide. Alors, Hélène, vous êtes jointe à Piéton-Québec juste avant la pandémie, justement. Parlez-nous un peu de votre parcours, ce qui vous a amené à Piéton-Québec.
En fait, j'ai une formation en architecture de paysage, en environnement, puis j'ai une maîtrise en aménagement. Et puis, au cours de mes mandats professionnels, j'ai constaté l'immense besoin des citoyens d'accéder de manière active au milieu naturel, soit par la marche ou par le vélo, et aux obstacles, surtout constater les nombreux obstacles auxquels ils se butent pour y accéder, parce que tous les espaces sont finalement privés. Mm-hmm. Et toute la question de la mobilité active et plus spécifiquement de la marche m'interpellait. Alors, lorsque cette opportunité de me joindre à Piéton-Québec s'est présentée, j'ai fait le saut et Je suis très contente de ce projet. Je pense que ça touche, oui, bien sûr, ça s'adresse aux aînés, mais ça touche tout le monde.
Qu'on verra plus tard. Et vous avez trouvé une belle équipe jeune, dynamique. Et
exactement, nous sommes toutes très engagées.
Excellent. Alors, notre entretien aujourd'hui porte sur la marche et la sécurité pour les personnes âgées. Encore faut-il définir la personne âgée? C'est quoi une personne âgée aujourd'hui?
Bien sûr que statistiquement, quand on parle des personnes aînées, on parle des personnes de 65 ans et plus. Mais il reste que c'est quand même un groupe de population qui est très hétérogène. Là. On parle de personnes de 65 à plus de 100 ans même. Donc, il faut retenir que c'est grâce finalement à l'espérance de vie qui augmente, les personnes de 65 ans et plus vivent de plus en plus longtemps en très, très bonne santé. Et surtout s'ils demeurent actifs, ce qui est hyper important. Mais il reste qu'en avançant en âge, tôt ou tard, selon son bagage génétique, ses habitudes de vie, son environnement aussi, plus ou moins favorable,
oui.
Il reste que des incapacités s'installent et fait en sorte que le rythme de marche ralentit, les réflexes sont moins rapides, ce qui fait en sorte qu'une personne qui marche est plus à risque lorsqu'elle traverse la rue, par exemple. Donc, on doit, considérant le vieillissement rapide de la population au Québec, adapter nos aménagements, considérant qu'il y aura de plus en plus de personnes qui seront, des piétons vieillissants qui seront sur nos routes, dans nos rues et dans nos villes et villages, en fait.
Mm-hmm.
Donc, d'où notre désir de mieux aménager, d'inciter les municipalités à mieux aménager leur environnement en fonction des besoins des piétons aînés.
On connaît très bien la valeur de la marche pour la santé, pour la population en général. Qu'en est-il des personnes âgées? J'imagine que c'est aussi important, sinon plus peut-être.
Ben oui, effectivement, c'est largement reconnu dans la littérature scientifique que la marche est une... Ça a des bienfaits pour la santé physique, tant physique que mentale et même cognitive. Et en plus, c'est une activité simple et très accessible. On parle d'une paire de souliers, finalement. C'est quand même
Exactement.
Tout à fait simple. C'est peu coûteux. Donc, c'est important aussi c'est un moyen de transport incontournable. On a tous à faire quelques pas, peu importe notre mode de déplacement. Et pour les aînés, et c'est essentiel à leur autonomie. En fait, plus on avance en âge, plus on est mené à délaisser les autres modes de transport. Il y a des personnes qui n'ont pas d'automobile non plus, mm-hmm. qui n'ont pas le choix de se déplacer autrement que à pied. Et ils peuvent bien sûr adopter un lift, comme on aime dire, soit se déplacer en transport collectif, en transport adapté, prendre un taxi ou se faire accompagner par une personne, un aidant naturel en voiture. Mais il reste que la marche, pour de nombreuses personnes qui avancent en âge, c'est le moyen de transport c'est leur moyen de transport. C'est le seul moyen de transport, voilà.
Et c'est le meilleur.
Et c'est le meilleur pour leur santé.
Pour leur santé.
Donc, c'est extrêmement important. C'est essentiel pour leur autonomie.
Parlant de santé, j'aimerais reprendre quelques éléments de votre guide. Par exemple, réduction des risques de maladies cardiovasculaires de 31% et du diabète type 2 de 36%, ainsi que l'hypertension de certains cancers. Renforcement et maintien de la santé des os. Amélioration de la santé mentale et des fonctions cognitives et réduction de 33% des risques de développer la maladie d'Alzheimer et ralentissement de sa progression.
Oui.
Et c'est une bête noire.
Mais c'est quand même extraordinaire, comme une activité si simple peut avoir des effets aussi bénéfiques sur un ensemble d'éléments qui affectent la santé en vieillissant. Donc, c'est vraiment important de mettre en lumière l'importance de marcher pour la santé des personnes aînées.
Et on connaît tous et toutes des personnes de 80, 85, 95. Des fois, j'ai connu une personne de 104 ans qui était autonome complètement autonome son logement, elle faisait la nourriture elle-même et ainsi de suite. Donc l'importance émotive également, socialisante de la marche pour s'assurer d'une autonomie aussi longtemps que possible.
Oui, parce qu'on parle d'essentiel à l'autonomie, bien sûr, de faire des emplettes, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est important pour l'inclusion, la participation sociale des personnes. Ça leur permet d'aller à la rencontre de leurs amis, membres de la famille. Les aînés font beaucoup de bénévolat aussi. Donc, oui, c'est des personnes qui sont très actives socialement. Donc, c'est important pour eux que leur environnement favorise justement leur déplacement à pied de manière confortable et sécuritaire.
Mmh. La marche, définitivement, elle est importante. Encore faut-il un environnement urbain qui soit agréable, qui soit sécuritaire. Et c'est un peu le défi parce qu'aujourd'hui, dans certaines régions ou certaines villes ou certains quartiers de ville, on ne peut pas dire que l'environnement urbain est propice à la marche et pour tout le monde, là, même pas uniquement les aînés.
Effectivement, nos aménagements, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont conçus en fonction des déplacements motorisés, de sorte qu'on a souvent oublié la place du piéton. Et on se retrouve devant des éléments d'aménagement qui ne conviennent pas du tout aux caractéristiques des piétons aînés. Par exemple, la traversée de la voie à l'intersection est trop longue pour la distance est trop longue pour eux. Oui. Il peut avoir le nombre de voies à traverser est un facteur de risque. Pour eux en particulier. On le sait aussi, le temps alloué aux piétons pour effectuer la traversée au feu de circulation, c'est un enjeu.
Puis
on l'entend aussi pour même des personnes plus jeunes, c'est parfois trop court pour les piétons. Imaginez pour une personne aînée qui a un peu de difficulté à se déplacer, qui marche lentement, le 20 secondes qui lui est alloué est beaucoup trop court. Ça la met à risque d'une collision, à le risque de ne pas avoir le temps de se rendre de l'autre côté de la rue avant l'arrivée du feu rouge. Il y a aussi la question de la vitesse des véhicules, parce qu'en fait, les personnes aînées, plus on avance en âge, nos réflexes diminuent, on a un peu de difficulté à évaluer la vitesse des véhicules qui arrivent, de sorte qu'on peut être plus à risque là, en traversant, parce qu'on a mal évalué justement cette question de la vitesse. Il y a la densité de la circulation aussi. La personne aînée doit traverser.
De plus en plus,
doit traverser, prendre entre deux voies en sens inverse. Donc, c'est un défi pour ces personnes. Il y a la question de la visibilité aussi, l'éclairage qui parfois est trop faible, insuffisant pour ces personnes qui ont parfois des déficiences visuelles. Les bruits urbains, c'est aussi dérangeant pour les personnes aînées.
Oui.
C'est quelque chose qui peut les rendre plus anxieux aussi. C'est inquiétant. Ça peut nous faire sursauter. Puis il y a aussi la question de la cohabitation non seulement avec les automobilistes, mais aussi avec les vélos,
qui
est un facteur de risque. Là.
C'est le vivre ensemble qu'on doit développer de plus en plus.
Oui, c'est sûr.
Il y a aussi la taille des voitures.
La taille des
voitures.
Surtout
aujourd'hui, il semble depuis 5 ou 6 ans, c'est des voitures, des camions presque. Il y en a beaucoup qui se procurent des camions plutôt qu'une petite voiture.
Vous avez tout à fait raison. En fait, non seulement le nombre de véhicules augmente sans cesse sur nos routes, mais la taille des véhicules aussi est en forte augmentation. On a de plus en plus de camions légers et VUS sur nos routes et autant la taille là, que la masse, le poids de ces véhicules, c'est un facteur de risque pour tous les piétons, mais particulièrement pour les aînés.
Oui. Et vous avez, je pense, quelques statistiques que vous avez recueillies au niveau du nombre de décès, d'accidents et je crois que c'est en augmentation.
Chez les piétons aînés, c'est près de la moitié des piétons décédés qui sont des personnes âgées de 65 ans et plus. C'est inquiétant, considérant, comme je le disais un peu plus tôt, que le nombre de personnes aînées est en progression dans notre province, de sorte que partout dans nos villes et villages, on aura de plus en plus de piétons aînés qui souffriront en fait d'un facteur d'insécurité, considérant que le nombre de véhicules augmente, la taille des véhicules augmente, et ça a un lien direct avec le facteur de risque de collision.
Alors, nous allons nous pencher un tout petit peu sur ces risques, justement, les facteurs de risque et aussi les deux grands défis, dans le fond, les collisions et les chutes des personnes âgées. Alors, on prend une courte pause et on revient tout de suite. Alors, nous sommes de retour avec Hélène Fournette de Piéton Québec. Hélène, nous avons saisi le problème, la problématique des collisions. Maintenant, les chutes, c'est un autre grand risque pour les personnes âgées, n'est-ce pas?
Effectivement, les aînés, en ce qui concerne leur déplacement à pied, il y a deux grands facteurs de risque. Là, c'est la question des collisions routières et des chutes dans l'espace public. On a peu de données au Québec, en fait, sur cette question des chutes dans l'espace public.
Ah oui?
Oui, ça reste encore à documenter, mais on a des études qui nous donnent une idée de l'ampleur du phénomène, là.
Mm-hmm.
Il reste que c'est très important. Puis les aînés, ce qu'il faut retenir, c'est que les aînés craignent justement de chuter parce que, en fait, en vieillissant, on le sait, le processus de guérison est plus long, réhabilitation est plus longue.
Oui.
Puis c'est souvent le début d'une perte d'autonomie, en fait, hein, une blessure. Donc, la crainte de chuter est très importante dans l'espace public. Et nos aménagements, nos infrastructures piétonnes sont souvent peu adapté à ces piétons aînés. Les trottoirs sont souvent trop étroits. Donc, mm-hmm. Une personne aînée craint d'être heurtée par un passant et de chuter, de se blesser. Souvent, ces fameux trottoirs, non seulement sont trop étroits, c'est le design lui-même. Là, on a, avec le temps, des crevasses qui se sont formées. Donc, il y a la question de l'entretien aussi qui n'est pas fait. Donc, cette crainte de chuter parce qu'ils sont mal entretenus. Il y a aussi la question de l'hiver. Donc, le déneigement, le déglaçage, on le sait, là, on vit une période de crise climatique. Donc, on a nos hivers en dents de scie qui fait en sorte que c'est plus à risque pour une personne aînée de sortir lorsque il y a des changements brusques de température et donc de risquer de glisser, de tomber. Ça, c'est un autre grand problème avec la question des infrastructures piétonnes. Donc, c'est important de porter attention au design des trottoirs. Il y a aussi la question des entrées chartières. On pourra en reparler tantôt si on parle.
Oui, j'aimerais m'attarder un tout petit peu aux chutes parce que c'est bien connu. Il y a plusieurs personnes âgées qui peuvent se briser une hanche, par exemple, et qui entraînent d'autres complications et qui, éventuellement, peuvent même mener au décès. Parce qu'on arrête tout simplement l'activité physique, la marche. Donc, on peut comprendre que la chute, c'est vraiment une considération, une crainte très justifiée, dans le fond, de la part des personnes âgées.
Oui, effectivement. Puis, si on a des infrastructures qui sont plus favorables, justement, à la marche, mais ça encourage, justement, cette activité physique qui est essentielle au maintien de la bonne santé des muscles et des os. Donc, on retarde ce phénomène, justement, où on devient plus fragile et sensible à la question des chutes.
Donc, on prolonge la santé, on prolonge l'autonomie.
Oui, c'est ça. Mais il faut que les aménagements soient bien faits.
Oui. Alors, parlant d'aménagement, justement, vous avez illustré dans votre guide les corridors piétons. Aménager de meilleur ou adapter, disons, les corridors piétons aux besoins des aînés. Et comme vous le disiez aussi, ce qu'on fait pour les aînés, on le fait pour tout le monde. C'est pour les familles, c'est pour les jeunes, c'est absolument tout le monde. Alors, lorsqu'on parle d'adapter les corridors piétons, quels sont les éléments de cette adaptation ou de cette transformation, si on veut?
Bien, premièrement, on a besoin d'espace. Là, quand on parle d'un corridor piéton, on parle, par exemple, d'un trottoir suffisamment large et confortable, là, séparé de la circulation routière et cycliste, entretenu en toute saison. Et ce même corridor séparé doit s'inscrire dans un cheminement le plus court et direct possible pour faciliter les déplacements piétons vers les destinations de leur choix. Et ce cheminement doit se faire vers une traversée qui est sécuritaire.
Oui.
Parce que bien sûr, on a toujours à traverser des voies de circulation. Donc, ces traversées doivent être sécurisées de sorte que le passage piéton doit être plus court. Si on a besoin de mettre un feu de piéton, il doit être la vitesse de ce feu piéton doit être adaptée justement à la vitesse de marche des aînés. Lorsqu'on parle de trottoir, on parle de surfaces planes et régulières qui sont lisses sans être dérapantes là, et qui sont déneigées, déglacées l'hiver. On doit s'assurer que ces trottoirs soient connectés aussi aux arrêts d'autobus avec des abribus qui sont bien dégagés en tout temps également l'hiver.
Cette idée de connectivité, justement, on en a parlé dans d'autres émissions, d'autres aspects de la connectivité. Très important pour une personne âgée de pouvoir aller d'un endroit à un autre et de rejoindre, en fait, de répondre à tous ses besoins.
Oui, exactement. On doit lui éviter de faire de longs détours qui est source de fatigue, qui pourrait les amener à renoncer à se déplacer à pied, justement. Donc, l'idée, c'est de leur offrir des environnements qui sont favorables au déplacement à pied, qui sont sécuritaires, confortables et attrayants. On a aussi besoin de mobilier adapté, donc d'offrir des bancs de repos positionnés à des distances aux besoins, parce qu'en fait, on doit répondre aux besoins des aînés. Bien sûr, ça peut être plus ou moins distant, là, les bancs, mais si on est dans un secteur où il y a une forte concentration de personnes aînées, on installe plus de bancs.
Notre chroniqueur à Marché vers le bien-être, Michel O'Neill, qu'on appelle gentiment le serin pèlerin, je lui ai rendu visite à Québec il y a quelques semaines et il me pose la question, Denis, sais-tu quels sont les deux grands besoins premiers des personnes âgées lors d'une marche, lors d'une randonnée? J'ai dit non, je ne les connais pas. Il me dit les bancs que vous avez soulignés et les toilettes.
Et les toilettes publiques, c'est un élément important qui revient souvent, qui est nommé là, par les aînés. Et non seulement les toilettes publiques, oui, bien sûr, et tout le long de ce cheminement, on doit offrir de l'ombre, des arbres, non seulement pour offrir des îlots de fraîcheur. On le sait qu'on a avec les changements climatiques, on a de plus en plus de longues canicules. C'est quand même un élément important. Ça vient, ce verdissement, là, c'est une occasion d'amplifier le verdissement. Et ça ajoute aussi de la beauté au lieu. Donc, ça augmente, ça améliore le paysage urbain. Les aînés sont très sensibles à ces éléments esthétiques, d'ailleurs. Donc, de leur offrir des points de vue aussi sur des milieux intéressants, une percée visuelle par exemple, un point d'eau un patrimoine bâti d'intérêt. Donc, de porter attention au corridor piéton de manière à ce qu'il soit aussi motivant et esthétique, là, motivant pour la marche.
Et surtout au Québec, et je parle de Montréal, je parle de la ville de Québec, je parle d'autres grandes villes et même de plus petites communautés. Nous sommes choyés au Québec, nous avons des lacs, nous avons des rivières et souvent les villes sont en bordure justement de ces cours d'eau. Donc l'attrait justement peut-être aussi d'aménager des régions ou des tracés qui sont près justement des cours d'eau pour offrir un attrait visuel stimulant, agréable, pour la détente, pour la santé.
Ça peut être aussi un bois.
Un boisé, oui.
Un bois, ça peut être, comme je disais, du patrimoine bâti, mis en valeur, un espace public, une fontaine.
Une fontaine, oui.
Donc, de faire en sorte que ce corridor piéton soit attrayant aussi pour les aînés et confortable, bien sûr.
Alors, nous prenons une autre courte pause et nous revenons à quelques aspects plus concrets, peut-être trottoir, qui est un élément central, si on veut, des déplacements pour les personnes âgées. Nous poursuivons notre exploration en compagnie d'Hélène Fournel de Piéton Québec. Hélène, je pense que nous avons ensemble brossé un tableau assez complet de ces corridors piétons, ce que doit faire en ville pour aménager les espaces urbains pour qu'ils soient plus agréables, plus sécuritaires pour les piétons. Si on s'attarde maintenant à quelques-uns en particulier de ces éléments, dont les trottoirs, c'est quand même la base là, de la circulation en ville, n'est-ce pas?
Exactement. Et dans le guide, en fait, on parle plus spécifiquement des trottoirs sur une rue commerciale, par exemple, où on aurait une grande fréquentation de piétons.
Oui.
Donc, d'offrir plus d'espace. On propose le trottoir de 2,4 mètres de large, de sorte qu'il y ait... Plusieurs des aînés qui marchent ensemble, qui peuvent croiser une famille, par exemple, sans problème. Et on invite aussi à éviter d'aménager des entrées charretières dans les trottoirs.
Donc, est-ce qu'on peut décrire l'expression « qu'est-ce qu'une entrée charretière
» Donc, c'est l'abaissement dans le trottoir qui est réalisé, qui est aménagé pour faciliter le passage d'un véhicule motorisé. Je pense que tous les auditeurs comprendront assez rapidement de quoi on parle. Et c'est justement ces entrées charretières font en sorte qu'il y a une pente qui est créée dans le corridor piéton. Et cette pente-là, c'est très inconfortable pour une personne qui a un peu de difficulté avec son équilibre.
Oui.
En fait, c'est inconfortable pour l'ensemble des piétons.
Absolument.
Ce changement de niveau.
Surtout les poussettes pour n'importe qui.
Les poussettes, exactement. Oui. Donc, et l'hiver, en plus, souvent l'eau qui est drainée sur cette pente peut geler. Donc, ça ajoute un risque là, quand on traverse. Donc, ces entrées charretières, quand on a l'espace, on recommande fortement de créer ce qu'on appelle une banquette, donc une zone tampon qui est verdie, là où on plante les arbres et on positionne aussi le mobilier urbain. Et cet espace qui est séparé de la rue et du trottoir permet justement, offre l'occasion là, d'aménager l'entrée charretière.
Ce qu'on voit aussi parfois dans les vieux quartiers des villes, où on avait ça il y a longtemps.
Oui, exactement. Il y a beaucoup de...
Et c'est même très agréable d'avoir un peu de verdure, un arbre, même des fleurs. Il y a des voisins, des citadins qui vont... aménager un mini-jardin presque.
Oui, c'est propice à l'appropriation citoyenne, effectivement.
J'aime l'expression, oui.
on le remarque particulièrement à Montréal, que les gens s'approprient ces espaces et ajoutent des fleurs. Donc oui, effectivement, les anciens quartiers étaient souvent aménagés avec cette fameuse banquette qui permettait de séparer le corridor piéton de la circulation routière et d'ajouter des arbres, ce qui fait qu'on a des corridors qui sont ombragés l'été.
Oui.
Les arbres absorbent les bruits urbains, ça atténue ce bruit-là de la circulation. Ça rend les déplacements piétons beaucoup plus agréables. Donc, on a cette question. Il y avait aussi dans les anciens quartiers, pas juste sur la rue commerciale, mais il y avait ces aménagements les rues résidentielles aussi.
Oui.
Alors qu'avec l'arrivée, finalement, l'aménagement qui favorise surtout les déplacements motorisés, on a vu carrément les territoires disparaître.
Dans les banlieues.
Les rues résidentielles en banlieue, il n'y a aucun trottoir.
Il n'y en a plus de trottoir du tout.
Il n'y a plus de trottoir. Donc, on a une rue qui est vaste, qui favorise la circulation, la vitesse, en fait, pour les conducteurs.
Oui.
Et les piétons, marchent sur le côté de la bordure, lorsqu'il y en a, une bordure de béton. Mais il reste que c'est très insécurisant. On n'a pas d'espace, un corridor piéton séparé, justement, des véhicules. Donc, ça, c'est une problématique. Et les trottoirs, lorsqu'il y en a et qu'il n'y a pas de banquette, en banlieue aussi, il y a beaucoup ce phénomène. Et justement, les entrées charretières sont... en enfilade, sont aménagées en enfilade, donc on marche sur des monts, finalement.
C'est une montagne russe.
Montagne russe, oui. Tout le long du parcours. Et on a remarqué, d'ailleurs, que pendant la COVID,
pandémie... j'allais poser la question. Là.
Pendant la pandémie, que ces espaces n'étaient pas suffisamment larges et agréables pour tout le monde, alors que c'était la seule activité qu'on pouvait faire, c'était d'aller marcher à l'extérieur.
Donc, meilleur aménagement des trottoirs pour les piétons, âgés, jeunes, les familles, tout à cabine.
C'est la base.
Et tout ça, ça offre une meilleure protection aux piétons. Ça évite les conflits parfois entre les piétons et les cyclistes. On voit des cyclistes sur les trottoirs des fois.
S'il y a des cyclistes sur les trottoirs, il faut peut-être se demander, peut-être qu'eux aussi ont besoin d'un espace, d'un espace sécuritaire pour eux, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité sur la voie, sur la chaussée. Donc, il y a aussi une problématique pour les cyclistes qui souhaitent se déplacer activement sur le territoire, mais on comprend que cette question de cohabitation avec les cyclistes et les piétons est un problème, parce qu'il y a aussi la question des pistes cyclables qui sont aménagées de manière adjacente au trottoir, de sorte qu'on n'a pas une séparation physique aussi grande. Et ce que nous, on propose, c'est vraiment de séparer ces pistes cyclables des trottoirs de manière physique. Là.
Donc, on a besoin d'espace pour tout le monde.
On a besoin d'espace, effectivement.
Parlant d'espace, l'îlot refuge. Et là, on parle surtout de grandes voies de circulation où même une personne en santé physiquement alerte n'a pas toujours le temps de traverser complètement ces grandes artères à 4 voies, 6 voies, des fois davantage. Donc, l'importance d'îlots refuge.
Oui, en fait, c'est une infrastructure piétonne qui est méconnue au Québec. On en voit de plus en plus apparaître.
J'en ai vu 2.
Vous en avez vu 2?
Oui, oui. À Brossard et à Longueuil. C'est okay. Tout.
OK. Oui.
Donc, il y a du progrès à faire de ce côté-là.
Oui, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'offrir un espace au centre des voies, idéalement dans un terre-plein, pour de sorte que les personnes aînées puissent traverser un sens de la circulation à la fois. Mm-hmm. Donc, une personne qui marche trop lentement pour faire la traversée d'un seul coup pourrait s'arrêter dans cet espace îlot refuge, prendre une pause au besoin attendre le feu suivant pour traverser. Bien sûr, il doit avoir le feu d'appel du piéton doit être à portée de la main dans l'îlot refuge, pour que la personne reste prise à cet endroit.
Effectivement.
Donc, il faut qu'il soit bien aménagé. C'est aussi une occasion de réduire le rayon de virage des véhicules lorsque le design de cet îlot refuge là, mm-hmm. peut être fait pour de sorte qu'un véhicule qui s'engage à l'intersection et qui amorce son virage doit ralentir justement parce que cet îlot refuge le force justement à ralentir. Là. Donc, ça incite le conducteur à respecter le piéton qui s'engage dans l'intersection.
Bon, il y en a pas beaucoup en ce moment des îlots pour les piétons comme ça. Ce qu'on voit de plus en plus, par exemple, ce sont les saillies de trottoirs. Et on pourrait peut-être expliquer le phénomène, parce que même ici, autour du plateau, autour du poste de radio, on en voit de plus en plus, et dans d'autres municipalités également.
Oui, les saillies de trottoir, effectivement, on en voit ici à Montréal et ailleurs, là, au Québec. C'est une infrastructure qui permet justement de réduire la longueur de la traversée du piéton. Et ce faisant, ça réduit aussi la largeur des voies. Donc, ça incite les véhicules à ralentir.
Donc, on pourrait décrire un tout petit peu peut-être de chaque côté de la rue.
Soit à l'intersection, ça peut aussi être fait entre 2 intersections.
Ah oui.
Donc, c'est un prolongement du trottoir vers les voies de circulation.
De chaque côté.
De chaque côté. Oui. Fait que vous imaginez que ça fait un peu comme l'équivalent d'un entonnoir.
Oui, oui.
Et cet entonnoir de béton peut être verdi. Donc, c'est souvent une occasion d'ajouter du verdissement sur la rue, ce qui est un avantage particulièrement, par exemple, à Montréal, où on avait relativement peu de verdure. Donc, il y a des quartiers qui sont de plus en plus verdis grâce à l'aménagement des saillies de trottoirs que l'on voit un peu partout.
Oui.
Puis, comme je disais, on peut aussi en aménager entre deux intersections pour aménager, par exemple, un passage piéton entre à mi-bloc, qu'on dit, là.
Oui, oui.
Pour justement, quand on parle de cheminement court et direct, donc offrir une option là, aux aînés ou à toute personne qui se déplace à pied, de ne pas avoir à se rendre à l'autre intersection pour passer de l'autre côté de la rue. Donc, on peut ajouter un passage piéton à mi-bloc qui est aménagé dans une, justement, saillie trottoir. Voilà.
Alors, et comme vous dites, on en voit de plus en plus. C'est très agréable, l'appropriation des citoyens, justement, pour verdir un peu leur coin de rue, leur quartier. C'est vraiment une superbe initiative, je trouve.
Oui, bien, j'espère qu'on va en retrouver de plus en plus à l'extérieur de Montréal.
Oui, aussi. Oui, oui, oui. Alors, le dernier aspect que j'aimerais soulever, ce sont les intersections surélevées ou les passage piéton plutôt surélevé. Je trouve le phénomène très intéressant. Donc, on tente de niveler un peu, de ramener la chaussée au niveau du trottoir pour permettre une mobilisation, en fait, une démarche beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile.
Oui, effectivement, ce sont des infrastructures qui permettent à la fois de ralentir la circulation puisque le véhicule qui s'engage, qui arrive à l'intersection ou au passage piéton surélevé doit franchir un obstacle.
Mm-hmm.
Et ça permet, comme vous le dites, ça permet un cheminement plus facile,
naturel. Au
piéton, naturel, puisqu'il demeure toujours au même niveau, au niveau du trottoir. Donc, ça évite les changements de niveau. C'est aussi l'eau de pluie ou de fonte est évacuée à l'extérieur du passage ou de l'intersection surélevée, de sorte que ça évite la formation, par exemple, de plaques de glace l'hiver. Donc, là encore, on se retrouve avec moins de risques de chute pour une personne aînée qui aurait à traverser un tel aménagement. C'est vraiment des aménagements qui sont vraiment favorables et confortables, en fait, pour tous les piétons.
C'est une espèce d'immense dos d'âne, pour ainsi dire.
Un immense dos d'âne, ça peut
aux intersections.
Une intersection surélevée, le plateau couvre toute l'intersection.
Oui.
S'il s'agit d'un passage piéton surélevé, c'est à la largeur du passage piéton à ce moment-là qu'on a ce dos d'âne allongé, finalement.
Et ça favorise l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant, béquille, quoi que ce soit.
On n'a pas cette espèce d'abaissement du trottoir qui force finalement le piéton à se descendre sur la chaussée, traverser la chaussée et remonter. Donc, c'est plus facile pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent personne avec une chaise roulante et des jeunes familles avec les poussettes.
Oui, oui, oui. Hélène, je pense que nous avons fait un beau tour d'horizon de la mobilité pour les personnes âgées, les éléments de sécurité, de santé, d'autonomie, et ainsi de suite. Pour en savoir davantage, comment on s'y prend?
Bien, vous pouvez consulter notre page web qui est dédiée au projet Piéton un jour, Piéton toujours sur le site web de Piéton Québec. Et vous pourrez justement consulter le guide. À la fin de cette page, vous trouverez également des outils existants qui sont en fait des démarches qu'est-ce qu'on peut faire dans une municipalité pour justement mettre en place des aménagements de cet ordre, faire le portrait de la situation, comment on s'y prend avec des consultations avec les citoyens.
Parce que c'est quand même un effort collectif de collaboration entre les citoyens et les élus.
Effectivement. Et pour s'assurer qu'on sorte finalement des aménagements ou des interventions ponctuelles, il faut s'asseoir avec les citoyens aînés, notamment pour voir quel lieu fréquente-t-il ou quel lieu aimerait-il fréquenter de manière à pied, là, plus spécifiquement à pied, pour prendre les bonnes décisions puis finalement développer une vision plus globale des interventions à mettre en place.
Et vous êtes optimiste pour l'avenir?
Oui, je suis optimiste. Je pense qu'il y a un intérêt. Nous, on remarque qu'il y a un intérêt pour les déplacements actifs, tant piétons que cyclistes, partout au Québec. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi en raison de cette préoccupation à l'égard de l'environnement. Oui. On est très optimiste que nos villes et villages vont offrir des aménagements qui favorisent la marche pour tous les âges dans les prochaines années.
Bon, on ne met pas de date de péremption.
Non.
Non.
Excellent. Ça va se faire progressivement, j'en suis certaine.
J'aime bien. Ça s'est fait progressivement depuis quelques décennies, de toute façon, et c'est un long processus, mais qui va dans la bonne direction, si j'ai bien compris. Et votre guide, encore une fois, félicitations. Un excellent outil. J'encourage tous les auditeurs à se rendre sur le site Piéto-Québec pour le consulter et le partager surtout. Alors, Hélène, merci beaucoup d'être venue à l'émission aujourd'hui. Je rappelle plutôt aux auditeurs que vous êtes chargée de projet à Piéton-Québec. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt sur un beau grand trottoir large et accessible.
Et merci beaucoup de l'invitation.
Au plaisir. Merci. Vous êtes à marcher vers le bien-être en compagnie de Denis Chagnon et, par bonheur aujourd'hui, de Michel O'Neill, notre chroniqueur serein pèlerin. Bonjour Michel et merci beaucoup de vous être déplacé pour nous rendre visite en studio.
Grand plaisir, Denis. Et puis c'est agréable de voir l'environnement et le visage des personnes avec qui on travaille à distance aussi.
Ah, très intime. Et nous avons notre technicien Valérian qui s'occupe bien de nous également. Donc, vous avez une grande marcheuse à nous présenter ce matin.
Tout à fait. En fait, dans l'esprit de que même les aînés peuvent marcher, je vais vous présenter une marcheuse assez exceptionnelle que j'ai connue en 2018, en fait, sur les réseaux sociaux, et elle s'appelle Pierrette Saint-Pierre. Sur les réseaux sociaux, elle annonçait sur la page Facebook de Marcher Autrement au Québec un grand projet pour 2018. Elle voulait cet été-là marcher 2000 kilomètres entre les chutes Niagara et le rocher Percé. Et même en allant plus loin jusqu'à son domicile gaspésien de Carleton-sur-Mer. Rien de moins.
Ouh là là!
Ayant été témoin sur cette même page de projet pas mal plus modeste, mais qui avait avorté, j'avoue que j'ai été un petit peu sceptique sur la possibilité que Pierrette, effectivement, réalise son aventure. Mais c'était vraiment bien mal la connaître. Sur la page Facebook où elle reportait son périple, elle invitait les gens à aller marcher avec elle. Alors, je l'ai prise au mot. Et quand elle est passée à Québec, j'ai marché une journée de 23 kilomètres avec elle entre Saint-Augustin-de-Desmaures et Québec, où j'habite. Après ces quelques heures de marché avec elle, plus jamais je n'ai douté qu'elle ferait son projet. Et que quel que soit le projet qu'elle déciderait de faire, finalement, elle le réaliserait sans problème. J'avais découvert une immense marcheuse. Et elle m'avait suffisamment impressionné pour que, finalement, je lui fasse la surprise d'aller marcher la dernière journée de son périple de 2000 kilomètres entre Maria et chez elle à Carleton-sur-Mer. Quelques jours plus tard, comme si elle n'avait pas assez, elle est repartie pour faire les 200 kilomètres qui lui manquaient pour boucler son tour de la Gaspésie. Pour se reposer de ça, marcher un autre petit parcours qui s'appelle Marchant la Matapédia de 70 kilomètres.
Pour se reposer.
Alors, ça vous en dit long sur le personnage. À mieux la connaître, en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas la première fois qu'elle marchait une aventure après l'autre comme ça. Elle avait déjà enchaîné, en fait, l'ascension du Kilimanjaro et elle était allée après ça faire un trek sur le parcours de base de l'Everest. Et en 2019, elle récidivait en allant se reposer des difficiles 625 kilomètres de la portion québécoise du Sentier international des Appalaches, en allant parcourir 825 km sur la voie du Puy et des chemins de Compostelle. Alors, vous voyez le genre. Adepte du plein air, en fait, depuis l'âge de 5 ans, quand on lui a offert ses premiers patins, elle a toujours marché. Puis elle a commencé à explorer, finalement, la longue randonnée par des sentiers dans le nord de Montréal, mais après ça, elle s'est promenée un peu partout. Et puis, aucune forme de marche ne la rebute, dans la mesure où elle lui permet de voir jusqu'où elle peut repousser ses limites. Puis en fait, elle fait ça pas pour une cause particulière, sauf pour montrer par l'exemple que c'est ni l'âge ni le genre qui peuvent nous empêcher de marcher. Oui. Écoutons en conclusion ce qu'elle a à nous dire là-dessus, et je la cite. Déjà jeune adulte, je faisais des treks de 1 à 4 semaines et j'ai toujours marché aussi loin que je me souvienne. Tous les jours après le souper, je marchais et marche encore 5 à 6 kilomètres en plus des week-ends. Le Kilimandjaro, le camp de base de l'Everest, la Russie, le Pérou, le Népal, l'Espagne, la France, incluant le GR20 en Corse, qui est le plus difficile sentier de la grande randonnée. Ah oui. Les montagnes des États-Unis, les canyons, autant aux États-Unis qu'au Pérou, les cavernes, les déserts, les Compostelles en Europe, l'ascension d'un volcan et tellement de montagnes que j'en oublie. Alors, on voit le genre. Oui. Et, ajoute-t-elle, tant d'autres pays. Impossible de me rappeler les années et les dates. La marche fait partie intégrante de ma personnalité. J'adore rencontrer les gens, j'adore les découvertes, et non seulement c'est accessible pour beaucoup de personnes, la marche, mais elle est aussi un agent positif pour notre corps et notre esprit. Elle nous contamine de bonheur, de paix, de sérénité, nul besoin de dépenser une fortune, aucune distance exigée, libre à chacun, tout le monde dort. Fin de citation. Alors voilà donc qui est Pierrette, et en passant, durant la pandémie, elle préparait le périple de 5000 km qu'elle souhaite accomplir pour célébrer son passage chez les septuagénaires. En faisant notamment cet automne, à l'automne 2021, un petit 800 km, en fait, pour se reposer encore, entre Danville en Estrie et Grosmont en Gaspésie. Alors, cette célébration sera soit un hommage à Terry Fox en refaisant son parcours entre Terre-Neuve et Sault-Sainte-Marie, ou encore en marchant le trajet de l'Eurovélo 3 entre Trondheim en Norvège et Compostelle en Espagne. Alors, bonne route, Pierrette, et un grand merci pour cette énergie contagieuse.
Et merci beaucoup, Michel, de nous avoir présenté Pierrette.
Ça m'a fait grand plaisir.
Alors, nous prenons une courte pause et nous revenons avec votre chronique sur Compostelle. Vous écoutez Marcher vers le bien-être en compagnie de Denis Chagnon et de Michel O'Neill. Michel, depuis le début de l'émission, on parle souvent de Compostelle, mais qu'est-ce que Compostelle au juste? Alors, si vous pouviez nous aider à comprendre un petit peu ce qu'est ce phénomène planétaire.
Oui, en fait, ça va faire grand plaisir, dans le fond, de vous parler de Compostelle, qui est à la fois une ville. Les gens ne savent probablement pas toujours que c'est une ville. Elle s'appelle Saint-Jacques-de-Compostelle ou Santiago de Compostela en espagnol. Mm-hmm. Elle est située dans la province de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Et c'est une ville où, depuis plus de 1200 ans, il y a un des lieux de pèlerinage très importants de la chrétienté. Alors, c'est comme ça que le phénomène a démarré.
Et alors, comment expliquer l'idée d'aller justement en pèlerinage vers ce lieu précis?
En fait, Saint-Jacques de Compostelle, c'est à cause de Saint-Jacques. Oui. Alors, qui est ce fameux Saint-Jacques, en fait, que l'on vénère? Saint-Jacques, c'est un des apôtres du Christ. Il y avait deux Saint-Jacques. Il y avait Saint-Jacques le majeur, qui est celui dont on parle, et Saint-Jacques le mineur. Et ce fameux Saint-Jacques le Majeur, quand le Christ est décédé, a eu le contrat d'aller évangéliser l'Espagne.
Oui.
Alors, il est parti évangéliser l'Espagne, ça n'a pas trop marché, il est revenu à Jérusalem, il s'est fait décapiter en 42 après Jésus-Christ. Et finalement, et là je vais utiliser beaucoup de conditionnels parce que tous les historiens ne s'entendent pas, mais je vous rapporte l'histoire la plus fréquemment reconnue. Et sa dépouille aurait été transportée sur une barque de pierre par de ses disciples et elle aurait été ramenée en Espagne où il avait évangélisé dans un endroit qui s'appelait Irina Flavia, qui est vraiment pas très loin d'où est maintenant Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, tout ça se serait passé avant l'an 100. En l'an 810, après une interruption assez longue de l'intérêt, un ermite du nom de Pelage, ou Pelayo en espagnol, fait un rêve. Et dans son rêve, il est entraîné à aller vers un champ, Campo, par une étoile, Stelle. Donc, Campo, Stelle, Compostelle. Là encore, il y a toutes sortes de théories, mais c'est la plus fréquemment admise pour pourquoi Saint-Jacques de Compostelle.
Oui. Oui.
Et dans ce lieu précis-là, il aurait redécouvert le tombeau du fameux Saint-Jacques qui aurait été amené là. Après ça, il y a une période assez intense où, pour des motivations à la fois religieuses et politiques, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle prend une ampleur très grande. Le premier pèlerin, en fait, notoire qui s'est rendu là en 872, donc pas très longtemps après la découverte vers 810, c'est le roi Alphonse II des Asturies. Mm-hmm. Et pourquoi ce roi-là y va? Vous êtes probablement au courant que... durant cette période, l'Espagne était occupée par les Arabes, ou les Maures, M-A-U-R-E-S.
Oui.
Et dans le fond, il y avait juste un petit coin de l'Espagne qui restait, dont le roi s'appelait Alphonse. Et c'était le début de ce qu'on voulait faire comme reconquête chrétienne de l'Espagne. Et Saint-Jacques joue un très grand rôle dans ça, parce que après que le roi soit allé en pèlerinage, il y a un premier pèlerin étranger important qui y va dans les années 950, qui s'appelle Godescalque. Mm-hmm. Lui, c'était l'évêque du Puy-en-Velay en France.
Ah,
C'est pour ça que le parcours du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago est si important. Et dans le fond, le premier guide du pèlerin pour savoir où aller, pour aller vers ce fameux sanctuaire à Saint-Jacques, s'appelait le Collex Calixtinus. Il a été écrit par un moine entre les années 1100 à 1350. C'était un morceau de ce codex-là. Puis ça décrivait déjà les principales voies qui sont encore utilisées aujourd'hui.
Oui.
Pourquoi je dis aussi que c'était un des motifs politiques? C'est parce que, d'une certaine manière, on voulait encourager la reconquête chrétienne et on a mis sur pied, dans le fond, d'avoir un parcours dans le nord qui réoccupait des territoires qui avaient été occupés par les Arabes. On a beaucoup encouragé ça, la papauté, les rois. On a mandaté des ordres chevaliers comme les Templiers ou les Chevaliers de Malte d'organiser des lieux pour héberger les pèlerins. Et donc, ça s'insérait bien dans la stratégie de réoccupation de l'espace par les chrétiens de l'Espagne, de la péninsule ibérique. Et Saint-Jacques est très important dans ça, dans le sens où il est devenu, à partir de ce moment-là, le patron de l'Espagne. Et c'est parce qu'on l'appelait Saint-Jacques le matamor. Matamor, ça veut dire matar, en espagnol, tuer, mauros, tuer des morts. Fait que, en théorie, selon la légende ou les croyances qu'on peut avoir, il apparaissait sur les champs de bataille pour aider les chrétiens à défaire les morts. Et donc, ce rôle, si on peut dire, joué par Saint-Jacques, l'a rendu très important. Et après qu'on ait fini la fameuse reconquête, donc le dernier arabe a été bouté à la mer en 1492, là, le pèlerinage commence à tomber relativement en désuétude, parce qu'il y avait moins de motivation. Et durant le Moyen Âge, en fait, au 13e, au 15e siècle, il y a eu, on dirait, un nombre très important de pèlerins qui y allaient, certains disent, entre 300 et 500 000 par année. Donc, ça a été le pourquoi ça a démarré tout ça. Si on regarde maintenant, pourquoi c'est revenu à la mode, ce fameux pèlerinage,
après
cette période d'accalmie là, de finalement presque 500 ans? Fin 19e siècle, on a redécouvert le fameux Codex Calixtinus, le guide du pèlerin. Fait qu'il y avait une forme d'intérêt pour ça. Mais on peut dire que ça a recommencé à être populaire, marcher dans la durée pour aller à Compostelle, dans les années 1960-70. Donc, c'est quand même très récent. Et surtout les années 80. Et encore là, il y avait des motifs à la fois religieux et des motifs à la fois politiques pour ce renouveau d'intérêt. Les motifs du côté religieux, Jean-Paul II, le pape d'alors, en 1982, était lui-même allé en pèlerinage.
C'est vrai, sur ce lieu-là. Oui.
Et en 89, il a convoqué ce qu'on appelle les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, qui est le grand rassemblement de la jeunesse catholique périodique. On a même eu ça au Québec, là, il y a un nombre d'années. Donc, 89, avec la JMJ, ça a été vraiment le coup d'envoi. À partir de ce moment-là, la popularité de Compostelle comme lieu de pèlerinage est redevenue très grande. Mais aussi, en même temps, l'UNESCO cherchait pendant que l'Europe était en train de comme se constituer. En fait, les autorités de l'Europe cherchaient des espèces de projets ralliers qui pourraient avoir de l'intérêt pour plusieurs pays. Et ils ont commencé à indiquer ce qu'on a appelé des itinéraires culturels. Et le premier grand itinéraire culturel européen a été de remettre au goût du jour les chemins de Saint-Jacques. Donc, il y a eu de l'argent mis pour ça. Depuis les années 80, c'était en 87, là, dans le fond, 89, les JMJ. Depuis ce temps-là, ça a vraiment été extrêmement fulgurant. Ça a vraiment explosé. Oui. On utilise comme mesure de fréquentation, même si on sait que ça sous-estime grossièrement, le nombre de diplômes de pèlerins donnés quand on va à Compostelle. On peut aller, avec un passeport de pèlerin, obtenir ce qu'on appelle une Compostella. Et donc, depuis les années 80, ils tiennent des statistiques très bien faites et on a vraiment une très bonne idée là, de comment ça a évolué. Donc, en 1980, il y a eu 209 Compostella qui ont été émises. Et en 2019, la dernière année complète, 345 585. Ouf. Fait que là, on voit, là, quand on regarde
toute une remontée, là.
Les courbes, là, ça monte comme ça.
Oui.
Au Québec, en fait, pour nous, dans tout ça, on en avait déjà parlé lors de la première journée, mais la première chronique, mais c'est en 95, ou c'est les années 90 là, pour qui c'était, ça a commencé. Et donc, le pèlerinage a repris de la vigueur à ce moment-là. Si on regarde, pour un peu conclure notre chronique, qu'est-ce qui se passe maintenant?
Bien, c'est ça, oui.
Et quel est l'avenir prévisible?
Et surtout en fonction de la pandémie, toujours.
Exactement. En fait, la pandémie, ben, comme tout le reste, a frappé de plein fouet. On peut le calculer, la diminution, en fait, du nombre de diplômes émis entre 2019 et 2020 a été de 85%.
85%.
Et même en 2020, les chiffres qu'on a jusqu'à maintenant, c'était encore une baisse de 66% par rapport à 2019. Donc, la pandémie a vraiment été très, très influente de ce côté-là. Mais on peut facilement penser qu'une fois que ça sera calmé, comme ça commence à le faire, ça va reprendre de plus belle. Et en particulier, 2021 était ce qu'on appelle une année jacquère, c'est-à-dire une année où la fête de Saint-Jacques arrive un dimanche. Et ça se passe selon une séquence de 6 ans, 5 ans, 6 ans, 11 ans. Et là, on était dans le 11 ans. 2021 était le 11 ans, dans le fond. Donc, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on a décidé que 2022 serait une année de rattrapage qui serait année jacquère aussi. Oui. Où là, il y a une porte sainte qui rouvre sur le bord de la cathédrale. Quand on met le pied là, on monte presque direct au ciel. Là, c'est comme... les Espagnols sont très friands de ça. Donc, il y a vraiment... tout lieu de croire que Compostelle, qui a créé, dans le fond, tout, non seulement une mouvance de pèlerinage, mais une mouvance de pèlerinage qui est de moins en moins religieuse, que ça va continuer à se dérouler dans les prochaines années.
Donc, ça augure bien pour l'avenir.
Tout à fait.
Michel, merci beaucoup de nous avoir présenter le contexte de Compostelle et sûrement qu'on y reviendra au fil des chroniques et des émissions.
Oui, parce qu'on en parle tout le temps, mais c'était pas clair que tout le monde avait une idée de ce qu'on voulait dire par ça. Alors, je pense qu'on maintenant, on le sait. Voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Michel. Chers amis, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h. Vous pouvez également écouter les émissions en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées sous l'onglet « Archives » aussi sur le site jemarchepartout.com sous l'onglet « Radio-VM ». Je tiens à remercier aujourd'hui nos invités, Hélène Fournel, chargée de projet chez Piéton Québec et auteure du guide ressources « Aménager des rues conviviales et sécuritaires pour les personnes aînées », excellent, disponible sur le site de Piéton Québec. Et Michel O'Neill, notre serein pèlerin, pour sa présentation de la Grande Marcheuse Pierrette et de Compostelle. Merci aussi à Valérian Fournier à la technique pour son entrain et sa bonne humeur de tous les instants. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. À bientôt.